OK, on va commencer notre 150e et dernière leçon dans notre série sur la théologie systématique. La dernière leçon, c'est sur les 10 commandements de Dieu. Alors, quand Christ est venu sur la terre, à un moment donné, on lui a posé des questions et il a réduit les 10 commandements de Dieu, ou le décalogue, ou la loi morale. C'est tous des noms qui veulent dire la même chose. Dans le fond, il les a réduits à 2. Matthieu 22, verset 36 à 40. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » On a aussi dans Romains 13, versets 9 et 10, où on nous rappelle que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand on regarde de quelle façon Christ a expliqué la loi quand il est venu sur la terre et que dans le sermon sur la montagne, il a fait une certaine exposition des différents commandements. On a vu, par exemple, dans le 6e et 7e commandement, que Christ lui-même démontre avec force que la loi ou le décalogue ou la loi morale est spirituelle et qu'elle s'étend non seulement aux actions externes du corps, mais qu'elle commande aussi aux pensées, affections et convoitises de l'esprit, mais aussi aux omissions. Dans le fond, c'est très important de réaliser cela parce qu'à l'époque, les pharisiens croyaient qu'ils étaient assez spirituels, qu'ils observaient la loi. Paul pensait qu'il était correct. Alors, c'est le Seigneur qui les a ouverts l'esprit à la compréhension que ça s'étend aux pensées, aux affections, aux convoitises de l'esprit, mais aussi au fait que tu omettes certaines choses. Donc, quand on regarde le décalogue dans Exode 20, on voit que Dieu avait donné une préface au décalogue. Dans Exode 20, versets 1 et 2, « Alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Alors, dans ce passage-là, on apprend que Dieu est l'auteur du décalogue. C'est le Seigneur Jéhovah lui-même, le Créateur de nos êtres, le Dieu de nos vies et de nos miséricordes, le Souverain, le Gouverneur, le Sustentateur et le Bienfaiteur. Donc, il faut bien vraiment prendre conscience que la loi morale, c'est quelque chose de particulier parce que c'est Dieu lui-même, le doigt même de Dieu qui a écrit les deux tables de la loi. Alors, son lien, ce qui est intéressant de voir à l'intérieur de ça, c'est qu'il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », nous dit qu'il s'agit bien du Dieu de l'Alliance. Et la raison, ça nous dit qu'il l'a donné pour l'usage du peuple de Dieu, donc Israël, et aussi pour les gentils, parce qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et dans Tite chapitre 2, verset 13 et 14, dans la version Osterval, ça nous dit « En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. » Le deuxième point qu'on va regarder, le décalogue, son contenu. Donc, on sait tous que les 10 commandements ont été écrits sur deux tables, deux tables de pierre, la première avec les 4 premiers commandements et qui donnent nos devoirs envers Dieu, et la deuxième table avec les 6 derniers commandements qui donnent nos devoirs envers le prochain. Ce qu'on va faire, on va regarder les 10 commandements un à un, et on va voir que c'est toujours, peu importe le livre que tu utilises pour parler de la loi, c'est toujours divisé de la même façon. Et il nous parle toujours ce qui est requis par le commandement et aussi ce qui est défendu par le même commandement. Alors, on va toujours examiner ça avec ces deux choses-là. Alors, le premier commandement nous dit dans Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors, ce qui est requis dans le premier commandement, c'est l'amour de Dieu. Dans Marc, chapitre 12, verset 29 à 31, Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Donc, l'amour de Dieu est requis. L'adoration de Dieu est aussi requis. Matthieu, chapitre 4, verset 10, verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Autre chose qui est requis, la foi et la confiance en Dieu. Jean, chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Ce qui est défendu dans le premier commandement, bien entendu, l'athéisme. Et aujourd'hui, ça court les rues. Donc, le fait de nier son existence, ses perfections, ses attributs. Dans le psaume 14, verset 1, « Au chef des chantres de David, l'insensé, dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Donc, ce qui est défendu, c'est l'athéisme. Ce qui est défendu également, c'est le polythéisme. Donc, incluant le panthéisme. Alors, le polythéisme, c'est simplement dire qu'il y a plusieurs dieux. Le panthéisme, c'est de voir la création comme étant Dieu lui-même. Alors, les deux sont rejetés par les Saintes Écritures. Alors, le polythéisme et le panthéisme sont des péchés qui sont défendus par le premier commandement. Deutéronome, chapitre 4, verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers les cieux, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Alors, on sait que quelqu'un qui étudie l'histoire, l'anthropologie, se rend compte que les êtres humains ont toujours adoré la créature au lieu du Créateur sous toutes sortes de formes. Jérémie, chapitre 2, verset 28. « Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes au Juda. » Alors, c'était loin d'être un compliment qu'il leur faisait. Il y avait beaucoup de villes dans Israël. Il leur dit, « Vous avez autant de dieux que vous avez de villes. » Alors, quand il avait dit qu'il y a juste un dieu, puis c'est lui qu'il faut que tu adores, c'est lui qu'il faut que tu serves, c'est lui qu'il faut que tu aimes, il y avait autant de dieux qu'il y avait de villes. Alors, c'était pas un compliment qu'il leur faisait. Autre chose qui est défendue, bien entendu, par le premier commandement, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, si on la définit simplement, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Alors, il peut y avoir énormément de choses qui peuvent prendre la place de Dieu dans nos vies. Si on en faisait une étude approfondie, on verrait qu'il y en a beaucoup. Éphésiens, chapitre 5, verset 5, « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. » Voyez-vous, il parle de l'impudicité, de l'impureté, de la cupidité, puis il dit « c'est-à-dire idolâtre ». Alors, il identifie ces mêmes péchés-là de l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Philippiens, chapitre 3, verset 19, « Les convoitises charnelles, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Ézéchiel, chapitre 14, versets 4 et 5. Alors ici, bien entendu, la justice propre, autrement dit, croire qu'on peut gagner la faveur de Dieu par nos bonnes actions, c'est aussi une forme d'idolâtrie. C'est pourquoi, parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Alors, si on ferait une étude exhaustive de l'idolâtrie, on pourrait se rendre compte que, dans le fond, les idoles, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être ta famille, ça peut être ta carrière, ça peut être les sports, ça peut être les loisirs, ça peut être le culte de la beauté du corps, etc. Deuxième commandement, Exode 20, versets 4 à 6. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors, ce qui est requis dans le deuxième commandement, c'est une adoration de nature spirituelle, Jean chapitre 4, versets 23 et 24. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Philippiens 3, verset 3. « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Alors, ce qui est requis, une adoration spirituelle, ce qui est défendu, les superstitions, la volonté propre et les traditions humaines. Dans Matthieu 15, versets 8 et 9, le Seigneur dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alors, on sait que c'était un grand problème à l'époque où Jésus est venu, qu'il le reprochait aux pharisiens, aux sadducéens et aux hérodiens. Colossiens, chapitre 2, versets 20 à 23. « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent tous pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Alors, on aurait de multiples exemples de ça dans le catholicisme où on se fouettait, ça avait l'air de mépriser le corps par des jeûnes excessifs puis par toutes sortes de choses semblables. Et ça nous dit ici que, dans le fond, ça n'a aucun mérite, ça ne contribuait qu'à la satisfaction de leur chair. Alors, bien entendu, ce qui est défendu aussi, c'est les représentations des choses divines, les crucifix, les statues, les images saintes. Deutéronome, chapitre 4, versets 15 à 18. « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous vous ne corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. » Et si on regarderait attentivement chacune de ces expressions-là, on verrait que les hommes ont toutes fait ces choses-là. Acte 17, verset 29. « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » Romains 1, 23. « Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Deutéronome, chapitre 7, verset 5. « Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Dieu est un Dieu jaloux qui punit les transgressions et exerce sa miséricorde sur ceux qui lui obéissent. » Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors, ce qui est requis par le troisième commandement, un usage saint et révérencieux du nom de Dieu. Quant à ses perfections, ses titres, ses attributs, sa parole et ses œuvres. On peut s'examiner sur ce point-là, parce que des fois, sur le côté du langage, face à ce qui est du nom de Dieu, parfois on peut avoir des écarts. Psaume 111, versets 9 et 10. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à toujours. Le psaume 103, versets 1 et 2. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors ça, c'est peut-être une chose qu'on devrait demander au Seigneur de faire attention de la façon dont on parle de lui, de son nom. Ce qui est défendu par le troisième commandement, user de son nom en vain. Autre chose qui est défendue, blasphémer. Jacques 3, versets 8 à 10, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Alors, blasphémer, on sait que les Québécois sont assez reconnus pour être des blasphémateurs. Le parjure est juré faussement. Deutéronome chapitre 6, verset 13. « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Zacharie 8, verset 17. « Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. » Alors, l'Éternel nous avertit aussi qu'il ne tiendra pas le coupable pour innocent. Dans Malachie, chapitre 3, verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Le quatrième commandement, Exode 8, verset 8 à 11, Exode 20, verset 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Alors, ce qui est requis par le quatrième commandement, garder un jour saint pour l'adoration et le repos du travail, des affaires et des loisirs profanes, assister au culte public de l'Église locale. Ce qui est défendu par le quatrième commandement, le quatrième commandement nous interdit de négliger sans raison valable d'assister au culte public de l'Église locale ou de nous en acquitter sans elle, de profaner ce jour en faisant ce qui est répréhensible, donc travailler. Sans raison, ce n'est pas pour des œuvres de miséricorde. Ézéchiel, chapitre 20, verset 13. « Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois. » Et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Alors on voit que l'Éternel prend les choses au sérieux, comme on dit. Profaner à l'excès ses sabbats. Cinquième commandement, Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, ce qui est requis dans le cinquième commandement, l'honneur, l'obéissance et le respect envers les parents, dans les relations inférieures-supérieures, dans les relations mari-femme, dans les relations employeur-employé, dans les relations magistrat-citoyen. Ce qui est défendu par le cinquième commandement, l'irrespect la désobéissance et le mépris. Le sixième commandement, Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Ce qui est requis par le sixième commandement, la préservation de la vie, la nôtre et bien sûr celle des autres, et la conservation de la vie en faisant tout en notre possible pour maintenir notre santé par la nourriture, l'hygiène et le sommeil. 1 Timothée chapitre 5, verset 23, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de ta fréquente indisposition. » Alors, on pense que Timothée était une personne extrêmement angoissée, nerveuse, et que le vin pouvait calmer un peu. C'est pour ça que Paul lui demande de faire usage un peu de vin, parce qu'il semble qu'il avait des fréquentes indispositions. Ce qui est requis, ce qui est défendu, par le sixième commandement, bien entendu, le meurtre sous toutes ses formes, que ce soit l'homicide, le suicide, l'avortement, l'euthanasie, de Deutéronome, chapitre 32, verset 39, « Sachez que c'est moi qui suis Dieu, il n'y a point de Dieu près de moi, je fais vivre et je fais mourir. » Donc, c'est une prérogative divine que de faire vivre ou de faire mourir, c'est pas à nous de prendre ces décisions-là. « Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Ce qui est défendu aussi dans le sixième commandement, c'est la pratique d'activités sportives extrêmes qui comportent le risque, des risques inutiles, volontaires et présomptueux à la fois pour sa vie et celle des autres. On en entend parler aujourd'hui de plus en plus, des gens qui prennent des risques complètement fous, risquent leur vie, risquent la vie des autres et après vont imposer un lourd fardeau financier pour que la société les soigne après. C'est vraiment un péché très grave. Bien entendu, ce qui est exclu de « tu ne tueras point », c'est les guerres justes et le droit du magistrat d'enlever la vie et bien entendu aussi l'autodéfense légitime. Si quelqu'un vous attaque, vous vous défendez, puis qu'en vous défendant, vous tuez la personne, vous n'êtes pas coupable pour ça. Alors, toutes les formes d'intempérance aussi, trop manger, trop boire, trop fumer, etc., Proverbes chapitre 23, versets 1 et 2. « Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. » Toutes sortes aussi, le sixième commandement, ce qui est défendu, toutes sortes, toutes les colères, les passions débridées, les querelles, les chicanes et les duels. On sait que les chrétiens ont beaucoup contribué à faire disparaître cette habitude qu'il y avait en France, en Angleterre, en Europe, un peu partout à l'époque, où quand les personnes s'insultaient les uns les autres, on prenait un gant, on y envoyait le gant dans la face, et c'était, il faisait un certain nombre de pas, il se retirait, puis il se tirait. C'était l'orgueil. Et les chrétiens de l'époque ont beaucoup contribué à ce que cette coutume-là disparaisse. Septième commandement, Exode 20, chapitre 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Ce qui est requis par le septième commandement, c'est « La sexualité doit être exercée à l'intérieur des liens sacrés du mariage, la chasteté, la pudeur, la décence, les pensées pures et la modestie. » 1 Pierre, chapitre 3, versets 2 et 3, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Ce qui est défendu par le septième commandement, bien entendu, l'intempérance, parce qu'on sait que Lot, un de ses problèmes, c'est vraiment l'intempérance. L'inactivité et la paresse, on sait que c'est ce qui a amené Sodome et Gomorre à une multitude de péchés. L'immodestie, on pourrait prendre l'exemple de Jézabel, les mauvaises compagnies, la fréquentation de mauvais endroits, la littérature impure, l'audiovisuel impur, la fornication, la masturbation, les regards impurs, le viol, l'inceste, l'ivrognerie et toutes sortes de formes de vie dissolues. Alors, on sait que sous le couvert de l'adultère, c'est toutes les, dans le fond, les formes de sexualité qui ne sont pas légitimes par les Saintes Écritures. 2 Pierre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent des âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Éphésiens chapitre 5, verset 4 et 5. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Moi, personnellement, je me souviens, toutes les années où j'étais dans le milieu du travail, c'est très difficile quand on est tout seul comme chrétien dans un milieu où ça commence à circuler toutes sortes d'histoires, des histoires comme ça dit, là, des propos insensés, des plaisanteries. On a beaucoup de difficultés à se conserver, de ne pas mettre notre petit grain de sel, parce qu'on dirait qu'il se crée comme une atmosphère, et là, on dirait que les gens sont portés à échanger. Il faut faire très attention, je m'en suis rendu compte, dans des réunions, parfois, on a de la difficulté, il faut se contrôler là-dessus, il faut se souvenir que Dieu n'approuve pas ces choses-là. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ici, on a l'exemple dans Matthieu 5, versets 27 à 28, où Christ vient vraiment leur expliquer que la loi, ça ne s'applique pas uniquement aux actes externes du corps, mais ça va même au niveau des pensées. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, il est en train de te dire que, dans le fond, l'adultère, ça peut se commettre au niveau de l'esprit, et personne ne le voit, mais ça s'est fait pareil. Puis, à ses yeux, c'est aussi grave. Le 8e commandement, Exode 20, verset 15, « Tu ne déroberas point. » Ce qui est requis par le 8e commandement, l'acquisition, la préservation et l'augmentation de notre richesse, dans la légalité, la diligence et l'honnêteté, et aussi l'idée de donner aux pauvres. Proverbe 22, verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Romains, chapitre 12, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Éphésiens chapitre 4, verset 28, « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Alors vraiment l'acquisition, la préservation et l'augmentation de notre richesse. Ne rien devoir à personne, être fidèle à nos engagements, dans les contrats et dans les paroles, avoir des poids et des mesures justes, bien administrer ce qui est placé sous notre charge. Romains 13, versets 7 et 8. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Lévitique, chapitre 19, versets 35 et 36. Vous ne commettrez point d'iniquité dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des hins justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Néhémie, chapitre 5, versets 11 et 12. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous le rendrons et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis, jurer de tenir parole. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce qu'il est en train de nous dire le centième. Donc, c'est 1%. À l'époque, l'Éternel n'approuvait pas un prêt à 1 %. Imaginez-vous, aujourd'hui, c'est rendu qu'ils nous prêtent à 25, 30 %, puis c'est approuvé par les lois du pays. Alors, on est très, très, très loin du compte, comme on dit. Ce qui est défendu par le 8e commandement, bien entendu, l'exploitation d'autrui, la fraude, ne pas remettre ses dettes et toute forme d'usure. Donc, l'usure, c'est vraiment prêter à intérêt, à haut taux d'intérêt. Et d'après ce qu'on lit dans les Écritures, 1 %, c'était déjà trop. Fait que... Le 9e commandement, Exode, chapitre 20, verset 16, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Ce qui est requis par le 9e commandement, notre propre réputation et celle des autres, donc voir à la conserver. Éphésiens, chapitre 4, verset 25, « C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1, « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Zacharie 8, verset 16 et 17, « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, que nul dans son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. » Alors, ce qui est défendu par le 9e commandement, le mensonge, les équivoques, les réserves mentales, le parjure, le faux témoignage, la médisance, la calomnie, répandre de mauvaises choses sur autrui ou les recevoir. Quand on parle d'équivoque, c'est de dire quelque chose qui peut avoir deux sens. On le fait volontairement. La publicité est maître là-dedans. D'utiliser des phrases qui, à première vue, peuvent sembler correctes, mais ont toujours deux sens, puis ils font exprès qu'il y ait deux sens. Alors, le mensonge, les équivoques, les réserves mentales, ou bien non, tu dis la vérité, mais tu dis pas tout ce que tu sais, sinon tu te gardes une réserve. C'est comme, l'Éternel n'approuve pas ces choses-là. Psaume 50, verset 19 et 20, « Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. » Lévitique, chapitre 19, verset 16, « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. » Je me souviens quand on était jeune, puis il nous faisait faire des confessions. On allait devant le curé, puis on disait « J'ai dit tant de médisance, tant de calomnie. » On ne savait même pas ce que ça voulait dire. Alors, médire de quelqu'un, c'est de dire quelque chose qui est vrai. Puis calomnier quelqu'un, c'est de dire quelque chose de quelqu'un dont tu sais que c'est pas vrai, mais tu le dis quand même. Un ou l'autre n'est pas nécessairement bien. Le 10e commandement. Exode 20, verset 17. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Alors, ce qui est requis par le 10e commandement, c'est le contentement. Philippiens, chapitre 4, verset 11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je vous dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 à 8. « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Alors, je pense que les Écritures nous disent que nos réels besoins, c'est vraiment des besoins fondamentaux. Avoir un toit sur la tête, manger, puis avoir des vêtements. Le reste, c'est pas vraiment des besoins fondamentaux. Si donc tu as ça, contente-toi de ce que tu as. Cela nous suffira, comme ça dit. Et ce qui est requis aussi, c'est la joie du bonheur des autres. Proverbe 35, verset 27, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Ce qui est défendu par le 10e commandement, le mécontentement de notre état et de nos circonstances. Psaume 113, verset 3, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il est défendu également la convoitise et la cupidité concernant les propriétés, les personnes ou les richesses. Éphésiens, chapitre 5, verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Jacques, chapitre 1, versets 13 et 14, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est une étude très intéressante que d'étudier le décalogue en détail. Bien sûr, on a fait un survol très rapide, mais il y a quand même beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce sujet-là. Et plus on les étudie, plus on se rend compte que, dans le fond, la loi morale est parfaite et elle est très profonde dans ses exigences. Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui? La loi de Dieu, qu'on appelle la loi de Dieu, ou le décalogue, ou la loi morale, ou les 10 commandements, c'est quatre choses qui veulent dire la même chose, qui font référence à la même réalité. Elle est parfaite. Psaume 119, verset 96. « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. » Deuxième application, la loi de Dieu est extrêmement profonde, large et exigeante. Nul homme ne peut l'accomplir à la perfection, ni avant, ni après son salut. Elle exige une obéissance parfaite, sans faille, absolue et incessante. C'est la simple et bonne raison pour laquelle on peut être déclaré juste, c'est parce que c'est Christ qui l'a fait à notre place. Par Christ, nous obtenons par imputation cette parfaite justice. Troisième application, implorons l'Éternel de nous sonder concernant nos manquements à son égard et de nous donner une plus grande compréhension de sa profondeur et de son immense portée et aussi une plus grande obéissance. Gloire à Dieu, gloire à Christ, gloire au Saint-Esprit.
Amen.